France Culture.
Esprit de justice qui ce soir va vous proposer de comprendre notre époque en la comparant au Moyen-Âge et plus précisément de rapprocher le faux au Moyen-Âge des fake news. On connaît les révolutions politiques ainsi que les révolutions industrielles ou scientifiques, mais il y a une sorte de révolution dont on ne parle pas car elle est invisible, presque insensible, ce sont les révolutions graphiques, celles qui concernent l'écriture. Il va être question de deux de ces révolutions ce soir, l'une très lointaine qui remonte au Moyen-Âge et l'autre ultra contemporaine et pour cause parce que c'est celle que nous vivons en ce moment. Et le pari qu'on va tenter de relever, c'est d'éclairer la plus contemporaine, celle qu'opère le numérique, par la plus éloignée, celle provoquée par la généralisation de l'écrit, qui mit d'ailleurs plusieurs siècles à s'accomplir. En effet, les sociétés de l'Occident médiéval, entre le monde carolingien et le XIVe siècle, ont été transformées par l'écrit, par la révolution de l'écrit. La force de l'écrit ne se laisse pas mieux voir qu'en suivant son contraire, c'est-à-dire l'histoire du faux. L'histoire des idées, de l'idée de falsification d'un original permet de comprendre l'évolution de la conception de la vérité à travers l'autorité conquise par l'écrit. Cette histoire est longue, car ce n'est que progressivement que le faux, comme un acte intentionnel de dissimuler un fait ou de certifier un fait qui n'existe pas, un fait imaginaire, pour obtenir des droits ou des rentes, c'est très progressivement que cette idée s'est imposée pendant de longs siècles. Les frontières entre ce qu'on pourrait appeler une vérité tronquée, une vérité raccommodée à tous les sens du terme, c'est-à-dire celle dont on comble les trous, et une vérité imaginée par la fiction, eh bien ces frontières n'étaient ni stables, ni précisément délimitées. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et l'histoire de la construction de la confiance dans l'écrit est d'autant plus instructive que nous assistons aujourd'hui à un mouvement inverse, c'est-à-dire à une diminution de la confiance dans l'écrit, les rapports entre la vérité, le mensonge, la fiction redeviennent flottants, problématiques. Et nous assistons aussi, on y reviendra ce soir, à la crise de la notion d'auteur, comme au Moyen-Âge. Alors, Esprit de justice propose de comprendre l'ère de la post-vérité dans laquelle nous entrons, en leur rapprochant, je l'ai dit, du Moyen-Âge et de l'opposition vrai-faux, en compagnie de Paul Bertrand. Paul Bertrand, qui est professeur en histoire médiévale à l'Université catholique de Louvain, qui s'intéresse aux cultures graphiques et textuelles médiévales et qui vient de publier un ouvrage important, Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge. C'est aux éditions du Seuil, ça vient de sortir. Et pour en discuter avec lui, eh bien, une spécialiste du numérique, des humanités numériques même, peut-on dire, Emmanuelle Bermès. Emmanuelle Bermès est maîtresse de conférence à l'École des Chartes. Et oui, à l'École des Chartes, qui l'eût cru, qu'on croyait cantonné dans les chartes et les manuscrits médiévaux. Et à l'École des Chartes, Emmanuelle Bermès est responsable du master technologie appliquée à l'histoire.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, avant de partager cette interrogation avec vous, Emmanuelle Bermès, sur cette prise de par l'École des Chartes, cette manière d'embrasser le très très contemporain. Je voudrais un mot, Paul Bertrand, vous dites, c'est une expression, une des multiples expressions qu'on trouve dans votre livre, vous parlez du Moyen-Âge comme l'empire du faux. L'empire du faux.
Oui, l'empire du faux, parce que c'est à la fois un fantasme contemporain, je veux dire, du 15e au 20e siècle, l'idée que le Moyen-Âge est un lieu où le faux a régné de manière générale. Et en même temps, c'est un peu, quelque part, une réalité, parce que la notion de faux est floue et complètement présente à tous les étages au cours du Moyen-Âge, entre, comme vous l'avez dit, la période carolingienne et le XVe siècle, avec des degrés, des régimes différents.
Alors, partons du début, parlons de la période carolingienne, ou plutôt cette période où l'écrit se construit. Il y a toujours eu des écrits en Europe, Paul Bertrand ?
Il y a toujours eu des écrits. On a parfois pensé qu'on avait une espèce de déchéance de l'écrit. En fait, il y a moins de... à partir de l'époque mérovingienne, donc à la fin de l'Empire romain, mais en fait... C'est moins une déchéance de l'écrit, en termes numériques, qu'une diminution de l'autorité de l'écrit. Oui. Si vous avez un écrit qui pèse moins, ben forcément, vous allez moins le conserver. Donc, vous aurez beaucoup moins d'écrits disponibles.
On se représente, quoi. Pour le moins, je me représente les écrits médiévaux comme des écrits rares, extrêmement soigneusement conservés, extrêmement décorés aussi, avec beaucoup d'enluminures, beaucoup de dessins. Je vous vois sourire, Emmanuel Bermez, parce que ils vivent toujours, elles vivent toujours, ces enluminures, aujourd'hui.
Oui, alors paradoxalement, peut-être, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de préserver les contenus numériques qu'on publie tous les jours, par exemple sur Internet, que de conserver ces manuscrits enluminés qui sont sur du parchemin, qui sont donc sur des supports très stables. Le numérique aujourd'hui, on l'écrit, on l'efface aussi vite, il va disparaître, c'est très très volatile.
Alors l'écrit est associé à des images, et je poserai la question ensuite à Paul Bertrand sur les enluminures, mais les enluminures, ça parle toujours à nos contemporains. Non ?
Oui, ça c'est le miracle du patrimoine et des émotions qu'il suscite quand on est en présence de ces témoins qui viennent du siècle, des siècles passés. On peut voir vraiment qu'ils les ont traversés, ils sont un peu étranges, un peu différents de nous. On sent ce passage du temps et ça déclenche toujours des émotions.
Des émotions positives à l'égard du passé. Alors, à vous lire, Paul Bertrand, on a l'impression que l'original, il n'y a pas vraiment d'original finalement au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge.
Et il n'y a pas d'original pratiquement durant tout le Moyen-Âge. La notion d'original est absente de l'état d'esprit des médiévaux de manière générale en Occident et peut-être même au-delà dans le bassin méditerranéen. Parce que les textes n'appartiennent pas à un auteur mais est réapproprié par les différents copistes qui eux-mêmes se pose en nouveaux auteurs, alors avec des degrés différents, ça dépend de leur qualité, mais certains copistes sont plus intrusifs que d'autres.
Plus imaginatifs aussi.
Plus imaginatifs, plus créatifs, et on a donc des textes mouvants, qui bougent sans arrêt, qui sont sans arrêt en train de muter. C'est ce qui explique évidemment ces angoisses qu'on peut avoir lorsqu'on est au 19e, 20e siècle, on a face devant des documents qui bougent sans arrêt, est-ce bien sérieux?
Et ça nous parle à nous, contemporains, Emmanuel Bermez, ces textes qui flottent, qui sont enrichis collectivement. C'est une sorte de crowd writing, pour le dire en anglais, ça fait plus chic, d'écriture commune.
Oui, complètement. Enfin, moi, je pense que dans l'ère numérique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aussi très difficile de parler d'original. Quand vous commencez à écrire un document sur votre ordinateur, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, et puis le modifier, l'envoyer une nouvelle fois, lui-même va le modifier, va l'envoyer aussi. Au bout d'un moment, on ne sait plus quelle est la bonne version, quelle est celle qu'on doit garder. On ne sait même plus forcément très facilement repérer les différences de l'un à l'autre.
Elles sont indétectibles. Voilà. Je veux dire, un fichier est copié sans y toucher. Le simple fait qu'il soit copié, on a deux originaux. Et si on le multiplie 15 fois, on a 15 originaux.
En fait, effectivement, la notion d'original dans le monde numérique n'a pas vraiment de sens. Et en ça, on se retrouve avec des documents qu'on est obligé de copier pour les diffuser. Quand vous envoyez un document à quelqu'un, en fait, vous ne lui envoyez pas le document que vous avez, vous l'avez toujours, vous lui envoyez une copie.
C'est ça.
On est aussi obligé de copier pour sauvegarder, pour conserver. Si vous avez des documents sur votre ordinateur, des photos, des documents que vous avez écrits, et que votre ordinateur crache, que votre disque dur ne fonctionne plus, la seule moyen de s'en sortir, c'est finalement d'avoir fait des sauvegardes. Donc, de disposer de copies de multiples de ces fichiers pour s'assurer de ne pas les perdre.
Mais alors, au Moyen-Âge, Paul Bertrand, c'est très différent. On copie aussi, mais quand on copie, on change un petit peu.
Alors, on copie, on change un petit peu, mais en même temps, c'est un peu la même, c'est un peu une philosophie similaire. Disons que si le numérique tel qu'il s'est développé à partir des débuts des années 2000, tel qu'il a été approprié par la société dans son ensemble, le grand public, j'allais dire, ils l'ont envisagé comme ça au départ, envisagé comme quelque chose de mouvant, là aussi. Donc c'est là qu'on a le point commun, le point de raccord entre le Moyen-Âge et l'époque numérique contemporaine, c'est dans ce mouvement qui est assumé des deux côtés. Et sans trop de problèmes, les notices, si on prend Wikipédia, qui est un peu en même temps au cœur de l'actualité des questions pour l'instant, Wikipédia est un outil qui vit dans le mouvement.
Mais...
évidemment, il y a une différence. La différence, c'est ce sur quoi d'ailleurs Emmanuel a sûrement rebondir, c'est la question de la traçabilité de l'information qui reste un élément fondamental
qui est possible dans le numérique.
Qui est possible dans le numérique, mais qui n'est pas possible évidemment dans des sociétés médiévales parce qu'elles ne sont pas faites pour ça.
Donc effectivement, si on va sur Wikipédia et qu'on clique sur l'onglet historique, on va pouvoir voir toutes les modifications qui ont été faites, par qui elles ont été faites. Donc on a une traçabilité très précise et c'est ça qui va nous permettre d'avoir encore une forme de confiance dans le numérique parce qu'on a cette traçabilité. Donc c'est plus l'écrit en lui-même dans le monde numérique en lequel on a confiance, c'est l'écrit plus toutes ces informations qui permettent de savoir d'où il vient, qui l'a fait, etc. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les processus d'authentification des chartes au Moyen-Âge de manière assez similaire.
Alors, au Moyen-Âge, Paul Bertrand, c'est une question de Béotien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent lire. Et puis en plus, c'est très difficile à lire, quoi. Pour nous, c'est très difficile à lire une charte médiévale.
Alors ça dépend des époques, somme toute. C'est vrai que on a cette impression d'un Moyen-Âge analphabète complètement perdu et où l'écrit est capturé uniquement par l'éclair. C'est vrai jusque en 1200 environ. À partir de 1200, vous avez une mutation qui se met en place, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une mutation de l'écrit, de la culture graphique, et à partir de ce moment-là, l'écrit s'impose dans la société comme étant un outil nécessaire et absolument essentiel. Ça saute aux yeux de tout le monde, y compris du plus petit artisan qui, tout d'un coup, se trouve intéressé par l'objet écrit et qui va... apprendre à sa façon, de manière limitée évidemment. Il ne s'agit pas de lire Dante dans le texte, mais il s'agit de pouvoir déchiffrer quelques phrases, quelques mots. Des écoles sont mises en place, des écoles très sommaires évidemment, et il y a un petit apprentissage basique qui se met en place. On apprend d'abord à lire, on apprend parfois à écrire quelques mots, et quand on est très doué, on apprend à compter, mais c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la semi-literacy. C'est cette idée d'un apprentissage léger mais réel. C'est un intérêt pour l'écrit.
Semi-literacy, je vois que c'est une expression qui vous fait rire un peu, Emmanuel Bernès. Est-ce qu'on serait pas un peu tous des semi-alphabètes ou alphabétisés?
En fait, ce qui me fait sourire, c'est de nouveau le parallèle qui me paraît totalement évident avec la période que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, on a des problématiques d'illettrisme, mais on a aussi des problématiques d'électronisme, c'est-à-dire des personnes qui sont éloignées d'une culture numérique dans laquelle on est complètement immergé. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour communiquer, pour déclarer vos impôts, ou pour travailler, ou pour n'importe quoi, vous avez besoin de savoir vous servir des outils numériques, et d'un ordinateur et d'Internet. Et donc les gens qui n'ont pas ce savoir-faire, eh bien, ils ont cette semi-littératie, peut-être numérique. Et ce qui m'a fait sourire aussi, c'est quand tu disais, Paul, que apprendre à compter, c'était le summum. Alors, pour nous, dans les humanités numériques, apprendre à programmer, là, c'est aussi.
Mais alors, justement, le problème, c'est que l'écriture médiévale, on la lit, c'est une écriture qui a enregistré la voix. Et donc, on peut. Bon. Le numérique, l'écriture numérique, elle est absolument insaisissable. On est tous analphabètes, en dehors de quelques-uns. On est tous analphabètes en matière numérique, Emmanuel Bermès. On peut apprendre à programmer, mais ça vraiment, c'est le nec plus ultra.
Oui, et en même temps, on est tous aussi des utilisateurs de ces outils. Donc, c'est vrai que par rapport à l'écrit imprimé ou manuscrit qu'on connaît sur du papier, on est obligé de passer par la médiation d'un outil pour accéder à l'écrit numérique. Par contre, c'est pour moi un peu la même chose que de conduire une voiture. Il y a des personnes qui savent réparer, fabriquer des voitures, et il y a des personnes qui savent conduire les voitures. Donc pour moi, la culture numérique, c'est de savoir utiliser le numérique, pas forcément de savoir le fabriquer.
Paul Bertrand.
Et pour aller dans le même sens, pour faire un raccord avec le Moyen-Âge, il y a en fait un système, une pratique médiévale que j'appelle, et que d'autres historiens appellent, le bricolage.
Oui.
C'est-à-dire que l'homme ou la femme du Moyen-Âge sait l'intérêt de l'objet écrit, en connaît vaguement l'usage et les techniques, et va l'utiliser d'une façon ou d'une autre en le bricolant. C'est-à-dire en le manipulant de la meilleure façon qui soit pour lui. En prenant le meilleur dans l'outil et en essayant de le trafiquer, par exemple. Vous prenez un carnet dans lequel vous faites vous recensez, vous faites une liste de vos revenus. D'habitude, ça se fait de manière très nette et très claire, au Moyen-Âge, par des clercs. Là, vous avez quelqu'un qui est moins doué pour ce genre de choses, alors il va commencer à bricoler, donc à avoir des lignes plus moins structurées, des colonnes qui auront disparu, des couleurs, n'en parlons pas. Bref, l'objet lui-même ne ressemblera plus au beau document.
Alors,
il sera bricolé.
Il y a cette idée de bricolage et cette idée de comment on utilise un modèle me fait penser à l'idée moderne de trame, l'idée numérique de trame. Quand on regarde vos affaires de faux, on se rend compte que les faussaires vont récupérer la trame d'un document, on dirait aujourd'hui en termes numériques, le cadre, et ils vont changer les noms, changer des dates, changer des tas de choses, de façon à se faire reconnaître des droits qu'ils n'ont pas, Paul Bertrand.
Voilà, parce que là, c'est encore autre chose. Il y a en effet cette idée de bricolage. Donc on va récupérer des objets, des documents, notamment, qui sont censés donner de la crédibilité à l'action. Prenons un exemple tout simple que j'aime beaucoup, c'est donc l'affaire du monastère San Pedro de Cardeña. On est au XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle en Espagne, vous avez des moines qui sont très embêtés parce que les communes d'à côté leur réclament la propriété d'une église. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben c'est très simple, ils se disent, il nous faut le document pour prouver ça, on est au XIIe siècle.
Ils vont le forger.
Donc on va le forger. Comment va-t-on procéder? Ben on va aller chercher dans les documents à disposition une belle charte du Xe siècle, deux siècles auparavant, et puis on va alors simplement la recopier le plus nettement, le plus proprement possible pour qu'elle corresponde, et on va y intégrer, on va y injecter alors quelques mots juste pour dire ah ben l'Église elle est dans le paquet de donations, dans le package de donations prévu par l'auteur du Xe siècle. Voilà, le document est prêt, on n'a plus qu'à aller au tribunal. On n'a plus qu'à jurer que le document est authentique. On le fait sans problème parce qu'on y croit. Parce que les médiévaux sont persuadés, les moines sont persuadés que c'est, si ce n'est pas ça, ça aurait été comme ça. C'est une évidence. Ce document-là n'est peut-être pas le document idoine, mais c'est tout comme.
Alors on pourrait dire qu'il y a cette confusion au Moyen-Âge entre la réalité, l'être et le devoir-être.
Alors c'est plus qu'une confusion, c'est la certitude que il y a des niveaux, comme je le disais, des niveaux de vérité. Il y a des niveaux de faux, en quelque sorte, ou des niveaux de vérité. Les médiévaux ont hérité de l'Antiquité un concept assez complexe, mais qu'ils utilisent sans problème, c'est le passage de la fabula, une fable, ce qui n'est pas tenable, et ça, on la laisse de côté, au factum, le fait, l'histoire, l'historia, ça c'est ce qui est définitif. Et entre les deux, ils ont récupéré de Cicéron et d'une série d'auteurs antiques l'argumentum. L'argumentum, c'est ce qui est probable, ce qui est faisable, ce qui est envisageable. Et l'argumentum, c'est cette espèce de ventre mou, cette espèce de lieu creux, qu'on peut utiliser à sa guise.
Sans souci du vrai et du faux.
Sans souci du vrai ou du faux, parce que si ce n'est pas vrai, ça aurait été comme ça. Si c'est donc une espèce de grande sérénité par rapport à l'action juridique et au document qui est derrière.
Alors, finalement, quand on réfléchit à la façon dont fonctionnent aujourd'hui les intelligences artificielles génératives, qui sont capables de générer des textes ou des images à partir d'une instruction, à partir d'un prompt, elles font exactement ça, elles utilisent ce flou, elles apprennent de toute la somme de ce qui a été dit, de ce qui a été montré, de ce qui a été fait auparavant, elles s'en nourrissent et elles génèrent quelque chose de probable. Elles tiennent un discours qui pourrait avoir existé, Et du coup, quand on le regarde, on se dit, c'est formidable. Effectivement, Paul Bertrand ou Emmanuel Bermès pourraient avoir écrit tel ou tel livre, comme le dit l'intelligence artificielle, mais ça n'est absolument pas vrai. Alors, c'est juste probable.
C'est juste probable, mais ça veut dire qu'on est revenu à une période où il n'y a pas d'auteur à proprement parler. C'est une crise de l'auteur, parce qu'après, au XVIIe, XVIIIe siècle, il va y avoir les droits d'auteur, ça va être très important. Là, il n'y a pas d'auteur, Emmanuel Bermès.
Bah, dans certains de ces cas, il y a une vraie crise, effectivement, de l'autorité. Une crise qui est liée au fait qu'un certain nombre de ces productions ne peuvent pas être reliées à une seule source unique. On parlait de Wikipédia tout à l'heure, c'est des centaines de milliers de contributeurs. Les textes ou les images qui sont générées par intelligence artificielle se nourrissent d'énormes corpus de textes et d'images qui existent, mais on ne peut pas retracer, on ne peut pas revenir. C'est pas du copier-coller, on ne peut pas dire « Ah tiens, cette phrase, elle était déjà dans tel livre. » C'est à la fois complètement nouveau et en même temps...
Parce que c'est réintégré dans un contexte différent.
Voilà. C'est totalement retravaillé.
Voilà. Paul Bertrand.
Absolument. Donc... Cette idée de l'autorité diverse, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment au Moyen-Âge. À un certain moment, de fait, les autorités sont tellement multiples qu'elles n'ont plus guère d'importance. C'est d'ailleurs un souci pour l'État lorsqu'on arrive au XIVe, XVe siècle et au moment où justement, là, le fou a repris ses lettres de noblesse et on ne peut plus faire ce qu'on veut. Là, à ce moment-là, le problème pour l'État, c'est d'éliminer les petites autorités qui la gênent. Et c'est là qu'on fait le ménage.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui a fait le choix ce soir de comparer le statut de l'écrit dans la société médiévale avec les fake news d'aujourd'hui en raison du numérique, en compagnie d'Emmanuel Bermès, responsable des humanités numériques à l'École des Chartes, et de Paul Bertrand, qui est historien et médiéviste. Et Paul Bertrand qui a choisi de nous faire entendre cet air, la musique de Sainte-Foy de Conques, et en l'occurrence qui était chantée par l'ensemble Organum en février 23.
Voilà, c'est un groupe très particulier qui est piloté par une chercheuse américaine absolument brillante et totalement étonnante, qui essaie de reconstituer la musique médiévale, mais telle qu'elle aurait été jouée effectivement, y compris dans la question de l'espace et des échos, sous toutes ses formes les plus matérielles.
Donc, ça, les auditeurs ont entendu quelque chose que l'homme médiéval entendait.
C'est ce qu'elle espère. Voilà. C'est ce que cette chercheuse espère. Donc, on est, en quelque sorte, dans une espèce de volonté de reconstitution de la réalité, avec cette question qui restera toujours, est faux ou authentique.
Eh ben, on y vient justement à la question faux ou authentique. Ça va nous occuper, continuer de nous occuper ce soir. Mais vous avez cette expression, Paul Bertrand, qui bien sûr attire mon attention et s'imagine aussi celle d'Emmanuel Bermès. Vous dites, le faux devient viral. Une viralité du faux au XIIe siècle.
Oui, parce que le XIIe siècle, c'est le moment justement de transition entre un temps, comme on l'a expliqué tout à l'heure, où on est très détendu par rapport au rapport entre vérité et fausseté et authenticité et forgerie, le moment où on peut modifier tant qu'on veut. Et puis, à partir du XIIe siècle, l'écrit prend de plus en plus d'importance. Et donc, à la fois, on commence à se dire « mais c'est important d'utiliser l'écrit », donc on le manipule encore davantage. Et en même temps, on arrive vers le moment où on va commencer à mettre le holà et dire « c'est terminé ». La distinction vrai et faux est beaucoup plus nette que ça. Donc, le faux, à ce moment-là, au XIIe siècle, semble se répandre partout de manière complètement folle, de manière virale. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'historiens l'ont dit avant moi, y compris Marc Bloch, d'ailleurs, qui parlait d'épidémie de faux.
Épidémie de faux, c'est un mal qui nous guette, Emmanuel Bermès, aujourd'hui.
En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux, la viralité, c'est quelque chose avec laquelle on s'est habitué à vivre. C'est des contenus qui sont repris, mais parfois des contenus qui sont pas juste repris, qui sont repris et réinventés. Je pense par exemple au phénomène des mèmes. Je sais pas si vous voyez, on prend une image, on la détourne, et on la détourne de plein de façons différentes. Et on va attribuer une légende différente à une personne qui a dit quelque chose d'amusant, ou reprendre une chanson, la réinventer de différentes manières. Donc ces phénomènes de viralité sur Internet sont aussi des phénomènes où on s'approprie des contenus, on ne les repartage pas à l'identique, on les repartage en les réinventant à chaque fois, et c'est ça qui crée la viralité. Et
on n'est pas très loin de ce que vous nous décriviez, Paul Bertrand, du premier Moyen-Âge, dans son rapport à l'écrit. Vous insistez sur un autre point, c'est-à-dire que Il y a quand même autour de l'écrit le sentiment d'un accord collectif. Mmh. Il y a un accord collectif et qui est peut-être ça la clé d'ailleurs qui explique la légitimité, le crédit dont il est doté.
Mais oui, c'est que tout le monde s'accorde autour de cela. Je pense même que par certains côtés, on a des sortes de contrats de lecture ou des contrats de compréhension, des contrats d'acceptation tacites entre les différents auteurs, les lecteurs, les auditeurs de ces textes qui se retrouvent autour de ces documents en attendant des choses très concrètes, en attendant réellement que le document réponde à leurs envies, à leurs besoins. C'est le cas, par exemple, pour les documents qui racontent les vies des saints. Oui. Pour les documents qui racontent les vies des saints, les textes, les vies des saints elles-mêmes, et qui sont sans arrêt reprises, remaniées.
Recontextualisées.
Et à chaque fois, elles sont recontextualisées, mais elles prennent aussi des éléments un peu partout dans d'autres textes. Et en fait, les auditeurs à qui on raconte ces vies de saints, à qui on les récite, attendent ça. Ils attendent ça comme des récits convenus. C'est normal que ce soit...
Alors qu'on est en pleine fiction et en plus, fiction sacrée.
Voilà, exactement. Mais la fiction, en fait, est une réalité qu'on ne connaît pas assez pour le Moyen-Âge. On est persuadé qu'elle est née à l'époque moderne, la fiction, et qu'en fait, elle avait un petit moment de vie aussi dans l'Antiquité, mais entre les deux, on n'a jamais étudié réellement la fiction.
Cet accord réuni autour de récits qu'on sait fictifs, ça me fait penser aujourd'hui à ce régime de validité par les mouvements de masse autour de le nombre de lectures, le nombre de followers, la masse qui se substitue à l'accord, peut-être, Emmanuel Bermès.
Alors oui, il y a peut-être une situation qui est un petit peu différente avec le numérique aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre acteur qui rentre dans la danse, qui est l'algorithme. L'algorithme, c'est la machine qui va trier dans toute la masse des contenus disponibles et qui va choisir pour vous ce que vous voyez.
Donc c'est une fausse foule, c'est une foule qui a été en partie créée par des calculs.
C'est une foule fictive qui est calculée pour que vous restiez fidèle au réseau que vous êtes en train de consulter. Donc en fait, elle est faite pour flatter votre intérêt et votre opinion.
Déjà.
Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses bulles de filtre dans lesquelles on peut se retrouver enfermé. Si on ne consulte que des réseaux sur lesquels on va avoir des gens qui ont la même opinion que nous et que toutes ces personnes sont persuadées que la Terre est plate, au bout d'un moment, on ne verra que des contenus qui nous disent que la Terre est plate et on peut finir par s'en persuader.
Alors au Moyen-Âge, quand même, à partir du 12e, 13e siècle, on lutte contre le faux. Et on lutte, Paul Bertrand, de manière farouche. Et là, on voit naître une institution, une autorité, et puis qui ensuite va être la tâche des juges, de poursuivre les faussaires.
Mais oui, parce que là aussi, hein, la culture graphique suit son cours, l'évolution de la culture graphique suit son cours. Là, désormais, à partir du XIIIe siècle, le faux n'est plus possible, n'est plus envisageable. On a besoin, vu la masse documentaire désormais maîtrisée et manipulée, vu les besoins gigantesques qui sont derrière, on a besoin de choses assurées.
Oui.
Et donc, forcément, le faussaire, désormais, il n'est plus bienvenu. Et les punitions, alors, pour les faussaires, sont terribles. Ce qui fait que le nombre de faux va décroître de manière drastique. Seuls quelques documents très importants seront faussés, parce que l'enjeu, évidemment, est important. On ne va pas fausser du petit bourgeois ou du petit artisan. On va fausser directement le document royal pour obtenir de grandes choses.
Robert d'Artois.
Voilà, comme Robert d'Artois, absolument.
Ça va mal se terminer.
Ah, mais là, Robert d'Artois cherche à récupérer son comté. il est face donc à Mao d'Artois qu'il refuse. Donc, que faire? La seule solution, c'est de passer par le faux. Jeanne de Divion, une aventurière qui passait par là, vient le trouver et lui propose
de
faire de faux documents. Ça marche. De très beaux faux documents, qui sont d'ailleurs toujours conservés aux archives nationales. Des documents extrêmement impressionnant, sauf que les techniciens de Philippe VI de Valois, qui vient d'arriver au pouvoir, eux ne sont pas dupes. Hein. Là aussi, il ne faut pas imaginer des médiévaux naïfs qui vont se trouver arnaqués par Robert d'Artois. Au contraire, eux, ils vont directement voir les petits problèmes, voir là où ça coince, le sceau, l'écriture, et à ce moment-là, la punition tombe, Jeanne de Divion passe sur le bûcher, et Robert d'Artois est exilé.
Mais alors, Emmanuel Vermès, là, le Moyen-Âge est en avance sur nous. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade où on poursuit le faux. On a l'impression qu'il y a une coexistence entre des institutions qui reposent sur l'écrit, un peu ringardisées, dévitalisées, face à cette vague, cette noyade par tout ce qui circule sur Internet, mais il n'y a pas beaucoup de gendarmes.
C'est surtout qu'on est en train de traverser, comme on le disait tout à l'heure, une crise et donc d'aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, ce que Paul Bertrand a posé, c'est une notion du vrai et du faux, un rapport à la vérité qui va traverser les siècles jusqu'à notre ère. C'est-à-dire que pendant toute cette période, toute cette longue période où on va avoir une conviction qu'il existe une vérité et que cette vérité, c'est l'objectif de la science de la découvrir.
Et qu'on peut la fausser, donc.
Et que donc on peut la fausser et qu'on peut facilement déterminer si quelque chose est vrai ou est faux. Et aujourd'hui, on est dans une ère où, d'une part, il y a trop d'informations qui circulent et sous des formes trop diverses pour qu'on puisse véritablement faire le tri dans cette information et la critique de l'information, c'est-à-dire les méthodes qui permettent de s'assurer de savoir si quelque chose est vrai ou faux sont de plus en plus difficiles à appliquer. Mais on a aussi des multiples vérités qui émergent, notamment à travers le regard qu'on porte aujourd'hui, par exemple, sur la décolonisation, sur les minorités, etc. Et on se rend compte que certaines des vérités qu'on a toujours présentées comme étant des vérités vraies et intangibles étaient en fait les vérités de certains, mais pas les vérités
des autres. Mais ça veut dire qu'on est dans une vérité de point de vue. Il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de commun dans cette vérité. C'est une question que je pose à tous les deux, je vois.
Oui, de fait, le problème, c'est une question d'autorité. Parce que la vérité est souvent, en effet, le produit d'une autorité ou d'autorités, parfois au pluriel. Il y a trois jours, il y a eu une scène absolument extraordinaire, un podcast qui a été organisé aux États-Unis par Joe Rogan, qui est un des tenants de l'alt-right, et il interviewait dans son podcast Elon Musk. Et Elon Musk lui a sorti des choses absolument ahurissantes autour d'un grand remplacement dans les États, les swing states américains où les démocrates voudraient importer une population immigrée pour pouvoir justement pousser le vote vers les démocrates, ou encore l'idée que jusque-là, à l'époque de Biden, les scientifiques, lorsqu'ils travaillaient sur Ebola, en fait, voulaient créer de nouvelles souches Ebola. Donc des choses absolument ahurissantes, mais il le dit avec son autorité d'homme le plus riche du monde et de proche de Trump, et ça, évidemment, ça a un poids énorme sur les plusieurs millions d'auditeurs de Rogan. Donc le problème, c'est ça, c'est les autorités derrière.
Oui, mais alors je pense à cette scène hier, qui est quand même assez surréaliste, Emmanuel Bermès, où il y a le discours sur l'état de l'Union par le président des États-Unis, et sur les rangs démocrates, il y a des sénateurs qui lèvent un panneau « false », c'est pas vrai, inexact. C'est-à-dire quand même, il y a notre culture de la vérité et du mensonge, on n'est pas quand même complètement arrivé à la post-vérité.
Ben, en tout cas, là, on est quand même dans une situation où les choses sont très ébranlées, je dirais, parce que on a traversé quand même une période où il y avait une conjonction entre l'autorité et le pouvoir. Oui. Et donc, où on pouvait faire confiance, on va dire, dans les institutions pour que ce qu'elles disent, ce qu'elles émettent comme écrit, soit plutôt porteur de vérité. Ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui et ce qu'on peut voir aux États-Unis, ça nous questionne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si les gouvernements eux-mêmes se mettent à tenir des discours qui, de façon évidente, sont faux, ou en tout cas qui ne représentent pas une vérité telle qu'on la reconnaît, du coup, on a des autorités qui disent des choses fausses, oui, et ça ébranle fortement, globalement, le régime de vérité dans lequel on est.
Alors, au Moyen-Âge, on a aussi une autre stratégie contre le faux. C'est de garder l'original, on en a déjà parlé, c'est les archives, Paul Bertrand, c'est les archives. Et bien on sûr. Peut comparer un document produit avec le document conservé.
Bien sûr, mais les médiévaux, très rapidement, cherchent des parades, cherchent des techniques. Et en fait, la technique, c'est une des meilleures techniques que l'on a trouvées, c'est ce qu'on appelle le locus credibilis. Mmh. C'est le lieu de crédibilité, le lieu qui donne de la crédibilité au document et le lieu qui est crédible lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un contrat, l'autorité qui met en place le contrat garde un exemplaire de son côté et vous donne l'autre exemplaire à vous qui en bénéficie. Donc, la grande caractéristique de ce locus credibilis, de cette procédure, c'est que le document ne peut jamais être faussé puisque la version authentique, en quelque sorte, vraie, pourrait-on dire, se trouve dans les coffres de l'institution qui l'a produite.
Ça ressemble beaucoup à la blockchain, ça, ce que vient de décrire Paul Bertrand.
Complètement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus vraiment d'original, où on peut faire des copies de tout et de n'importe quoi avec le numérique, on va être obligé de se reposer sur des organisations, sur des institutions, qui peuvent être des institutions d'État, je pense aux archives nationales, à la bibliothèque nationale, etc., qui vont augmenter le niveau de confiance qu'on a dans ces écrits numériques qu'elles conservent, et qui vont même parfois les créer. Donc, une des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on peut lire sur Internet peut disparaître extrêmement rapidement. Donc, il y a des organismes, dont les bibliothèques nationales et la Bibliothèque nationale de France le fait, qui vont archiver, donc qui vont fabriquer, forger une archive du web pour qu'on puisse conserver une trace de ce qui était publié à un moment donné. Et éviter que quelqu'un l'efface en disant « mais non, j'ai jamais publié ça ».
Alors, ce qui est très intéressant, parce que ce qui intéresse le juriste, c'est ce que vous disiez sur le locus credibilis. Je constate que le locus est un lieu, c'est spatialisé, on n'est pas dans la déspatialisation du web. Et ça me fait penser à la pratique aujourd'hui pour l'écoute des témoins en arbitrage international. Quand on écoute un témoin en arbitrage international qui est à Hong Kong, le tribunal arbitral siège à Genève, et ben pour savoir si le témoin est vraiment un témoin crédible, il y a quelqu'un du service du tribunal arbitral qui est à côté, à Hong Kong, physiquement à côté de lui, pour certifier la vérité, pour certifier cette sorte de spontanéité du témoin Paul Bertrand.
Oui, tout à fait. Alors, cette notion du témoin et du témoin habilité, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est non seulement fréquent dans le Moyen-Âge latin, mais qu'on trouve aussi dans d'autres cultures juridiques médiévales, comme par exemple dans le Moyen-Âge islamique, dans le droit islamique médiéval. Vous trouvez l'insistance, à partir du 10e, 11e siècle, sur le témoin, les témoins nécessaires et autorisés qui vont prendre de plus en plus d'importance jusqu'à ce qu'un, d'ailleurs, d'entre eux sorte pour devenir le notaire. Mais ça restera un témoin. Un témoin habilité. Le droit islamique est vraiment focalisé sur l'idée de la parole, mais lorsque l'on va passer progressivement vers l'écrit, l'idée du témoin restera extrêmement importante, un témoin autorisé.
C'est très intéressant ce que vous dites, Paul Bertrand, parce que je pense à la procédure de common law, toujours aujourd'hui. La procédure de common law, c'est que les écrits doivent être présentés par des témoins, doivent être... Et la crédibilité de cet écrit dépend de la crédibilité de celui qui le rapporte, de celui qui en parle, de celui qui témoigne, qui témoigne au sens fort du terme de cet écrit.
C'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne trop envie et ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les points de comparaison. On a vu qu'ils sont fort nombreux entre le statut de l'écrit au Moyen-Âge et la difficulté qu'a eu pendant toutes ces nombreux siècles pour stabiliser, pour confirmer l'authenticité d'un écrit, et donc ce n'est pas un faux. Comparer le Moyen-Âge avec la situation du numérique actuel en compagnie de Paul Bertrand, qui est médiéviste, professeur à Louvain, et d'Emmanuel Bermès, qui est à l'École des Chartes, mais qui travaille sur le numérique et qui a choisi de nous faire entendre cette ère d'Angèle, victime des réseaux.
Alors oui, ça parle d'un autre rapport qu'on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux au vrai et au faux, qui est le rapport à l'image qu'on donne de soi-même sur les réseaux. Et souvent, ce terme de fake est associé au fait de jouer un rôle ou de se montrer sous un certain jour, évidemment très favorable, à travers les photos qu'on peut publier sur les réseaux ou les meilleurs moments de sa vie qu'on peut publier, mais qui ne reflètent pas forcément la vie réelle.
Mais ça, c'est très médiéval à vous lire, hein, Paul Bertrand. Je suis pas du tout spécialiste, mais vous dites, dans le fond, l'homme médiéval, surtout du haut Moyen Âge, il écrit pas nécessairement ce qu'il voit, ce qui est vrai, mais il écrit ce qui devrait être. Vous l'avez déjà dit. Il décrit un monde idéal, comme s'il y avait une projection de soi. On le voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est médiéval.
Oui, parce que d'abord, c'est le monde que l'on attend, c'est le monde que lui attend, et c'est peut-être aussi le monde qui, surtout au 10e, 11e, 12e siècle, c'est le monde qui lui manque peut-être un peu. Là, je pars de cette théorie de la mémoire qui manquerait au 10e, 11e siècle. C'est une théorie qui a été mise en place par une série de chercheurs. L'écrit diminuant, l'autorité de l'écrit diminuant, forcément, on ne va plus réellement vous proposer de grandes histoires. Les grandes histoires manquant, il faut en recréer, tout simplement. Et donc là, on va recréer ces histoires qui vont coller à une réalité, celle que l'on voudrait entendre, c'est vrai, celle que l'on imagine, celle qui est la plus proche de celle qui est vécue. Du coup, évidemment, nécessairement anachronisme.
Oui, mais alors, dans le cas présent que vous décrivez, Mme Bermès, ça se fait au niveau individuel, c'est-à-dire chacun se projette. Ça me fait penser à une tendance actuelle qu'on voit notamment en droit, d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est vrai parce que c'est authentique. C'est vrai parce que je le pense vraiment. C'est vrai parce que je suis vraiment ça, c'est ma vérité à moi.
Du coup, ça pose la question de qu'est-ce que ça signifie être authentique.
Oui.
Une question que les archivistes se sont posées à propos justement des documents numériques, en se demandant comment est-ce que les documents numériques pouvaient prouver leur authenticité, ou comment est-ce qu'on peut prouver qu'un document numérique qu'on a aujourd'hui, qu'on a peut-être été obligé de recopier pour le conserver, est bien ce qu'il prétend être.
C'est-à-dire, c'est ça.
Comment est-ce que...
Ça, c'est quand même une drôle de formule. Vous dites, effectivement, le document est, doit être le bon, c'est-à-dire qu'il est bien ce qu'il prétend être. C'est ça le problème de l'archiviste dans le monde numérique.
Voilà, c'est une expression qui vient des normes d'archivistique actuelles et qui interroge, du coup, pas seulement le document lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de le regarder et de se dire ce document, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux. C'est ce qui se passe avec les deepfakes qui sont générés avec de l'intelligence artificielle. C'est des images, quand on les regarde,
indétectables.
Elles paraissent vraiment vraies. Elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Le seul moyen finalement pour un document dans le monde numérique actuel de prouver qu'il est ce qu'il prétend être, c'est de s'accompagner de données, de traçabilité, d'informations complémentaires qui expliquent en fait d'où vient ce document. Et la question, c'est pas tant de savoir s'il est produit par IA ou s'il n'est pas produit par IA, mais c'est s'il est produit par IA, de le dire, donc d'être ce qu'il prétend être.
D'être ce qu'il prétend être, Paul Durand.
Alors, du côté de...
Paul Bertrand, pardon, excusez-moi, je me confonds la vérité et votre patronyme.
Non, c'est bien moi. Au Moyen-Âge, on a cette nécessité aussi de documentariser l'information, de documentariser le texte, tout texte, pour qu'il soit plus vrai, plus authentique, eh bien, on essaie de lui accoler toute une série de qualités. Par exemple, on lui accole un nom, le nom d'un auteur important, et tout d'un coup, voilà que des auteurs antiques se retrouvent ainsi auteurs faux, évidemment.
Cicéron, notamment.
Cicéron, Sénèque, mais... Augustin lui-même, enfin, plein d'auteurs de l'Antiquité se retrouvent ainsi mis à toutes les sauces.
Mais alors, il y a une autre technique aussi qui est très importante, la bulle, c'est-à-dire des techniques, on met du plomb, on met des choses dedans, jointes au texte qui en certifie l'authenticité, Paul Bertrand.
Voilà, alors là, on arrive dans la question du sceau. Pendant des années, les chercheurs ont pensé que le sceau était juste un élément que l'on accole aux documents, aux chartes du Moyen-Âge. Hein, vous savez, cette petite pièce de cire ou de plomb, comme vous dites, que l'on accole à un document en parchemin, et une charte en parchemin, un contrat, et qui lui donnerait son autorité. En fait, il semblerait que jusqu'au 10e, 11e siècle, le sceau lui-même, qui représenterait davantage la personne autorisée et autorisant le document, davantage qu'un signe donnant foi au document. C'est un petit peu comme si c'était le double de la personne.
C'est ça, c'est le lien entre la personne et le document.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a trouvé, notamment dans les chartes, dans les sceaux mérovingiens, qu'on a retrouvé, de manière assez étonnante, des morceaux de poils ou de cheveux qui appartenait, semble-t-il, au roi mérovingien, qui était donc intégré dans la cire, oui, comme s'il était la représentation quasi physique du roi.
Oui, c'est le propre du don cérémoniel. Le don cérémoniel, on donne une charte, on octroie une charte, c'est une partie de soi-même. On devient le garant, son corps devient le garant de ce qui
Absolument.
Est octroyé, Paul Bertrand. Alors, on n'en est pas là, mais dans le monde numérique, il y a quand même un sérieux problème d'authentification.
Oui, alors ce genre de mécanisme, on va les retrouver à travers des dispositifs comme la signature électronique, par exemple, qui peut reposer sur parfois des dispositifs physiques qui sont vraiment associés à une personne, voire biométriques, donc des façons vraiment d'attester que c'est bien la personne qui a signé le document. Mais c'est exactement pareil que le sceau médiéval, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le document, de l'autre la signature. Si on perd le lien entre les deux...
Et un lien avec le corps, dans la biométrie, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'iris de l'œil, je sais pas quoi, mais il y a un lien avec le corps. La biométrie, la bien nommée biométrie, c'est le bios, c'est la vie elle-même.
Oui, alors ça, c'est une signature électronique qui va quand même très loin. Oui. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, même quand vous acceptez les conditions générales d'utilisation de n'importe quel site, c'est juste une case à cocher. Et ça, déjà.
Oui, mais bien sûr, mais il y a des scénarios dystopiques que j'ai lus dans lesquels on pense que dans 2050, pour monter dans l'autobus, il suffira de regarder la caméra et qui, par l'iris, identifiera si on a le droit de voyager dans l'autobus ou pas. Donc on est toujours dans quelque chose qui n'est pas étranger au monde médiéval. Mais alors, la question que je voudrais vous poser, parce que là, on parle des points de comparaison entre une période médiévale révolue qui a fini par créer le droit d'auteur, par créer des constitutions, des textes juridiques, des textes de loi, des commentaires juridiques, dans lesquels on retrouve beaucoup de choses, ce que vous dites d'ailleurs, Paul Bertrand, sur le brief, sur les records, où c'était toute une... Dans la science juridique, c'est très important, comment est-ce qu'on crée du droit à partir de l'accumulation de documents comme ça. Donc, on s'en est sorti. On a créé une civilisation où l'écrit stabilisait les rapports humains, Paul Bertrand.
Oui, comme je disais, par nécessité, il a bien fallu un moment régler les choses. Oui,
voilà. Alors je me retourne vers Emmanuel Bermès pour lui poser la question, parce que ce qui est assez angoissant dans ce que vous décrivez, ce qu'on vit tous, c'est finalement que ce soit les difficultés d'archivage, que ce soit les difficultés d'authentification, que ce soit le rapport au vrai, c'est ce qui crée le monde commun. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour dire on ne peut faire de la politique entre nous que si on partage un même critère du vrai et donc du faux. À partir du moment où il disparaît, et la question que j'aimerais vous poser, à vous Emmanuel Bernès, mais également aussi à Paul Bertrand, comment est-ce que ça va évoluer? Quelles évolutions vous voyez? Est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps dans un monde dans lequel on n'a plus de critères stables entre la vérité vraie, argumentée, prouvée et la post-vérité?
Alors, combien de temps on va pouvoir tenir ça? Malheureusement, je ne suis pas devin.
Si on suit l'exemple médiéval, ça peut prendre des siècles.
Ça pourrait prendre des siècles, mais en tout cas, la tendance qu'on voit se dessiner pour l'avenir et ce qui me semble là émerger avec les intelligences artificielles génératives, c'est qu'on est dans un monde, et on voit ça déjà depuis plusieurs années, où le numérique fait qu'il n'a jamais été plus facile de produire de l'écrit, de produire du texte. On en arrive à produire des quantités de textes tellement importantes, des quantités d'écrits tellement importantes, qu'il est impossible pour l'être humain de les appréhender. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on développe des machines qui vont nous aider à nous orienter dans la masse, à les catégoriser, à les trier, à les résumer. Et donc on va avoir de plus en plus de textes générés par des IA et d'autres IA qui vont être chargées de les lire. Donc au bout d'un moment, elles vont se parler entre elles. Et qu'est-ce que nous, humains, nous allons faire Ça, la question est entre nos mains, j'ai envie de dire.
Parce que la technique du mémo, vous insistez là-dessus dans votre livre, Paul Bertrand, c'est qu'en fait, l'homme médiéval, comme vous, il n'avait pas une grande culture et il fallait qu'il puisse se souvenir, il n'avait pas cet environnement qu'est le nôtre aujourd'hui, où, qui déborde d'écrits. Il y avait la technique du mémo, du brief.
Voilà, donc la technique du mémo, ou de la notice si vous préférez, c'est un système d'utilisation de l'écrit très sommaire qui est destiné à faire un aide-mémoire d'une action juridique. Et donc là-dessus, on n'y met que l'essentiel, évidemment, que les éléments clés, les personnes ayant participé à l'action juridique, les témoins, évidemment, essentiels, les témoins, l'action elle-même, et puis c'est tout. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est un écrit, mais qui n'a aucune valeur. C'est juste un écrit qui donne de l'information. Donc c'est évidemment une époque, mais ce n'est pas la nôtre.
C'est encore autre chose. Ma question, que pour la formuler de manière... est-ce que le numérique peut faire institution à lui-même ? Est-ce qu'il peut se faire tiers à lui-même alors qu'il est pure horizontalité et une génération de textes à l'infini, de masse de textes à l'infini, Paul Bertrand ?
Je pense que le numérique ne peut pas se faire institution à lui-même parce que derrière le numérique, il y a nécessairement les institutions humaines, entre guillemets, à moins d'envisager ce qui serait, comme le disait Emmanuel Bermès, à moins d'imaginer un numérique, à moins d'imaginer des intelligences artificielles ayant leur propre autonomie, mais à ce moment-là, c'est la fin de l'humanité, d'une certaine façon, ou d'une forme d'humanité. Non, la seule issue que je vois à tout ce déluge qui nous tombe dessus, mais qui est un déluge lié aux crises, en fait. On est en pleine dans une crise multiple, multiforme.
Une crise, un basculement, vous dites dans votre livre.
Voilà, un basculement qui est à la fois un basculement politique, économique, climatique, social, mais aussi graphique. Mais aussi graphique, on revient sur ce concept, un basculement graphique dont on n'a pas encore épuisé les transformations. On n'est pas arrivé au bout. Et donc, la seule façon d'arriver au bout, c'est pour ça qu'Emmanuel Bermès est là et qu'elle a ses actions autour de la documentation et cette réflexion absolument essentielle, c'est de prendre à bras le corps toutes ces questions et justement d'essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis de donner après ça des préconisations pour mieux cadrer ce numérique.
Alors, on va y revenir des propositions pour cadrer avant. Moi, je voudrais. Ce qui me frappe, et ça a été confirmé par un entretien ce soir, c'est de voir à quel point l'écrit, très vite, ce régime de l'écrit jouit d'une certaine autonomie, finalement. Ça marche tout seul. Et ça, on le trouve dès le Moyen-Âge, Paul Bertrand, ce qu'on voit à puissance 10 aujourd'hui.
Mais absolument, là, il a... Alors, là aussi, ça dépend des époques, mais dans tous les cas, cet écrit fonctionne avec une très grande autonomie, et parce que il y a une confiance, évidemment, derrière qui est placée, une confiance à géométrie variable, mais il y a toujours une forme de confiance.
Il y a une confiance dans le monde au Moyen-Âge.
Oui, une confiance très très forte dans le monde, alors qui est liée évidemment au monde clérical, mais pas seulement. Il y a une confiance et un optimisme dans le monde.
Alors, un optimisme dans le monde, confiance dans le monde d'Emmanuel Bermès.
Et ça, c'est un vrai problème du régime d'historicité dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que on a plus difficilement confiance dans l'avenir, qu'on est très focalisé sur le présent et sur une préoccupation qui va être la conservation des traces de notre présent pour qu'elles continuent à persister à l'avenir.
Ben oui, c'est ça, parce que vous dites qu'il y a une diminution de la confiance dans l'écrit. Mais la confiance dans l'écrit, c'est ce qui permettait d'avoir moins confiance dans ses congénères. C'est le propre du droit, c'est le propre des contrats. Et quand cet instrument médiateur qui se dispensait de nous faire des confiances d'honnêtes hommes, de foi jurée, etc., quand lui-même on n'y fait plus confiance, on est mal parti.
Eh bien, il va nous rester à faire confiance à l'humain, à nous faire confiance à nous, et aussi à être capable de remonter la chaîne de fabrication, ce qu'on appelle la chaîne des actes.
La traçabilité.
Comprendre comment tout ça a été fabriqué, le décor compliquée pour pouvoir réussir à s'en saisir avec les méthodes qu'on a toujours utilisées pour comprendre les documents. Et c'est là qu'on reboucle avec l'école des chartes.
Et bien sûr.
Et la nécessité de s'intéresser au numérique aujourd'hui.
Paul Bertrand, Forger le faux, les usages de l'écrit au Moyen-Âge, elle vient de sortir au Seuil. Merci à tous les deux. Merci à vous, Emmanuel Bermès. Et ce prix de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Grégory Vallon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.